Donc, je vais vous parler donc des animaux là où on ne les attend pas et au Conseil général de l'Eure, notamment sur l'entretien des espaces verts, des sites historiques et touristiques départementaux. Donc, ils sont nombre de deux, c'est pour ça que vous avez deux petites photos d'illustration. À gauche, une photo du jardin archéologique. À gauche, une photo du jardin archéologique de Gilles Lacombe. Donc, Gilles Lacombe, c'est une ancienne commune, enfin une ancienne ville romaine qui est en partie enfouie et qui se situe à proximité d'Évreux, donc dans la zone périurbaine d'Évreux. Et à droite, vous avez une photo du site d'Harcourt, avec, là, en fond de photo, le château d'Harcourt. Donc là, on est plus sur un site historique en milieu rural. Donc une petite présentation rapide des espaces verts de ces deux sites. Le domaine d'Harcourt, c'est un site qui fait 23 hectares, donc qui appartient au Conseil Général, avec un château. Donc là, tout à l'heure, la photo que vous avez vue, c'est la façade 17e du château, mais il y a une façade moyenâgeuse. Et autour du château, un arboretum. Donc un arboretum de collection de 7 hectares, où là, on a des arbres dispersés. Et un arboretum de peuplement, où les arbres sont plantés en ligne. Sur 4 hectares, une prairie de 3 hectares qui est pour l'instant une surface en devenir en termes de valorisation du site, et surtout des pelouses, des douves et une partie boisée à proximité du château. À Gisacom, un site de 14 hectares, donc là on a 9 hectares de réserve archéologique. Le site touristique se situe plutôt sur le jardin archéologique, donc la photo que vous avez vue c'est la partie des vestiges archéologiques qui a été mise en valeur. Des pelouses et des zones d'accueil, et puis un parking d'un hectare. Donc ce qui va nous intéresser là en termes de pâturage, c'est plutôt les 9 hectares de réserve archéologique. Il s'agit en fait de prairies qui ont été acquises par le Conseil général en vue d'être fouillées et éventuellement mises en valeur au niveau des vestiges. Donc avant de vous parler de l'entretien de ces espaces verts, il me semble important de vous parler des activités qui sont développées sur ces espaces verts. Vous allez voir, il y a un lien direct après. Donc les deux sites touristiques développent de l'accueil touristique, culturel, pédagogique et également des activités scientifiques. Donc à Harcourt, on a jusqu'à 40 000 visiteurs par an, 15 000 à Gisacom, l'accueil du groupe scolaire de mars à novembre, la mise en œuvre de programmes d'animation du grand public. Donc là, on voit une photo à Harcourt, c'est une manifestation, les automnales d'Harcourt. C'est des manifestations qui accueillent jusqu'à 3 000 visiteurs en une journée. Donc en termes d'entretien et de gestion des espaces verts, ça à prendre en compte, c'est assez conséquent. Il y a un rythme d'animation très fort sur ces sites-là, et il faut que les espaces verts soient en capacité d'accueillir ces animations. Et une activité qui qui est moins visible en termes de communication, mais qui a un impact important sur la gestion, c'est toutes les activités scientifiques, donc les fouilles archéologiques qui ont lieu sur le site de Gisacom, et puis sur l'arboretum d'Harcourt, toute la gestion scientifique liée aux collections d'armes. Donc là, je dis que c'est important parce que quand un groupe d'archéologues débarque pour faire ses fouilles, il faut que la prairie soit prête. Il n'est pas question que les moutons soient encore en train de pâturer. Donc là, cette diapo, elle a une grande importance à mon sens. La question de raisonner l'entretien des espaces verts, c'est une importance du fait des activités qui sont développées sur le site et qui sont plurielles, vous avez pu le comprendre. Donc on a des modes d'intervention différents pour chacun des sites. Des objectifs de gestion et d'entretien qui sont adaptés à l'utilisation de l'espace. Donc les 20 et quelques hectares d'Harcourt et les 14 hectares de Gisacom ne sont pas utilisés tous de la même manière. À Gisacom, il y a une partie qui est très utilisée par le public, une autre partie qui est utilisée plus pour les recherches scientifiques. À Harcourt, les 24 hectares ne sont pas entièrement utilisés par le public. Il y a une partie qui est plus éloignée du site, où les visiteurs vont moins souvent. Donc en fonction de cette utilisation du site par le visiteur et par les chercheurs, on a adapté les modes d'entretien et de gestion pour répondre très finement. C'est ce qu'on appelle la gestion différenciée, pour ceux qui connaissent. Donc ces modes de gestion, on les a définis dans des plans de gestion qui permettent de définir des méthodes d'entretien adaptées à chacun des espaces, de coordonner les interventions des agents ou des entreprises, de raisonner les interventions d'entretien, d'évaluer les résultats. Et puis aussi, ça permet d'expérimenter de nouvelles méthodes et de les évaluer avant de les déployer. Donc c'est dans ce cadre de la mise en œuvre des plans de gestion qu'on a pu expérimenter à partir de 2001 sur le site de Gisacom, le pâturage. Donc au départ, les 9 hectares de prairies réserves archéologiques étaient broyées une fois par an par la BDE, ça c'est pour l'exemple. Et puis, pour des questions de volonté de développement d'entretien plus écologique, on a souhaité entretenir par pâturage. Donc on avait sur place un partenaire immédiat qui est le Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie, que vous avez entendu ce matin, donc qui était déjà un partenaire du département, qui avait à sa disposition un troupeau de moutons, et on a pu comme ça expérimenter très rapidement le pâturage de nos 9 hectares de réserves archéologiques. Donc ça c'était en 2001. Dès 2002, l'expérience s'est trouvée intéressante. En 2002, le département a fait l'acquisition de son propre troupeau de moutons. Et cette gestion a donc continué jusqu'en 2005. En 2005, elle a été réinterrogée, puisque là, les élus nous ont dit « Attention, en 2000, ça nous coûtait 8 500 € l'intervention de la DDE sur 9 hectares. Maintenant, le pâturage, là, on arrive à 25 000 € par an. Ça fait x3. Vous êtes sûr de votre coût, là, l'écologie, c'est bien, mais bon... Donc on s'est réinterrogé au niveau des services et on a essayé d'évaluer, mettant de côté l'écologie, d'évaluer réellement, de pouvoir comparer l'entretien par broyage et l'entretien par pâturage. Et donc on a fait cette évaluation en mettant comme indicateur le coût et aussi le résultat esthétique. Je vous l'ai dit, ça a son importance, le site de Gisacom est en zone périurbaine, donc en zone habitée. Et là, on nous regarde. Et clairement, entre le pâturage par les moutons, où finalement, tout au long de l'année, on a une hauteur d'herbe à peu près moyenne, le broyage une fois par an, c'est pas du tout la même chose. Le broyage une fois par an, c'est tout d'un coup, on a de l'herbe qui est prête à monter en épi, des jardins qui commencent à essaimer partout, et puis d'un coup, on broie, c'est tout moche, c'est tout jaune, et au revoir jusqu'à l'année prochaine. Donc, on a fait cette évaluation. Ça nous a, ce qui nous a conduit à définir que pour être en équivalent pâturage, le broyage en termes esthétiques, il fallait faire jusqu'à 4 à 5 passages par an. De là, la distinction, elle était au niveau financier. Le broyage, c'était jusqu'à 40 000 € par an. Et le pâturage, on était à 26 000. Donc là, on se dit, bon, finalement, le pâturage, même sans parler des questions écologiques, c'est intéressant. Donc le département a choisi de maintenir le pâturage. À partir de là, en 2008, avec toujours l'appui du Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie, on allait plus loin dans notre plan de gestion pour regarder un peu plus près les questions d'intérêt écologique. Parce que jusqu'alors, on a mis en place le pâturage, mais on n'a pas trop regardé au niveau de la faune, de la flore, qu'est-ce que ça pouvait avoir d'intéressant. Et à partir de 2008, on a défini un plan de gestion un peu plus précis qui prenait en compte notamment l'impact écologique du pâturage. Donc ça, c'est sur le site de Gisacom, et c'était tellement bien que sur le site d'Harcourt, on a souhaité aussi expérimenter le pâturage à partir de 2009. Donc sur Harcourt, il s'est déployé dans les douves du château. Donc les douves du château, c'est, vous voyez, c'est comme les douves d'un château, c'est assez, des pentes assez abruptes qu'il fallait donc entretenir. Ils ont été entretenus par un chantier d'insertion jusqu'en 2008, avec un système de débroussaillage en rappel. Ça nous coûtait 8 000 € par an, 20 jours d'intervention. Et on a expérimenté le pâturage pour le même coût, et avec un résultat esthétique plus intéressant, puisque les moutons, bah, toujours pareil, hein, ils maintiennent une surface herbacée moyennement haute, voire rase, alors que le broyage, une fois par an, ça donne pas du tout le même résultat esthétique. Et puis un fort intérêt pour le public et les touristes. Les moutons, ils sont immédiatement aux environs du château, les visiteurs adorent. Enfin, il y a eu un impact très positif, même au niveau du public. Donc j'ai quelques illustrations en photo juste après. Donc là, le plan de gestion, c'est un exemple, hein. Donc le domaine d'Harcourt, c'est juste pour vous montrer que on n'entretient pas tout pareil. Donc les zones en rouge, c'est un entretien très régulier. On est tout proche des zones très touristiques du site, donc très proche du château. Donc toutes les zones en rouge, c'est tendu une fois toutes les deux semaines. Donc quand on s'éloigne un peu, on est sur du orange-jaune, là on tolère l'apparition de pâquerettes. Donc on est toujours sur de la tonte, mais beaucoup moins souvent. Et puis toutes les zones en vert, on était sur un principe d'un entretien annuel. Donc la zone en vert qui est tout en longueur, c'est la Bretonne de peuplement. Celle qui est à gauche, c'est la prairie qui est en devenir. Et en gris, ce sont les douves du château. Donc là, c'est pour simplement illustrer le fait que sur un même site, on n'entretient pas tout pareil. Donc en résultat, le pâturage, c'est une méthode qui est bien adaptée pour les espaces qui sont difficilement accessibles avec des moyens mécaniques. Donc là, sur la droite, vous voyez les touffes du château d'Harcourt avec nos moutons qui sont en bas, au travail. Les pentes sont assez abruptes, mais ils s'en sortent très bien. Ils font comme en montagne, leur petit cheminement un petit peu en zigzag comme ça. C'est toujours visible. Et sur la gauche, c'est des illustrations du site archéologique de Gisacom. Donc sur ces prairies, ces réserves archéologiques, il y a des vestiges qui affleurent. Et les moutons, ça s'en déroule très bien, alors que la broyeuse de la DDE, elle avait quand même quelques difficultés à aller broyer les endroits où il y avait des cailloux. Donc on a quand même un meilleur résultat. C'est une méthode qu'on a expérimentée aussi sur des zones qui sont facilement accessibles, complètement accessibles même par l'engin mécanique. Donc là, ce sont les illustrations, vous voyez l'arboratome de peuplement avec les arbres en ligne. C'est l'illustration du bas, c'est une réserve archéologique où il n'y a pas de vestiges qui affleurent. Pour autant, le pâturage y a un intérêt, puisque quand on pâture ces zones-là, on a une exportation de la matière organique. Qui a des conséquences visibles à l'œil, hein, même sans aller faire des relevés faune flore, hein, visibles à l'œil dans les 2-3 ans. Là, sur la photo en haut à droite, on a l'arboratome de peuplement. La première année, on n'avait pas fait pâturer, on a broyé une fois, on a laissé sur place. L'année d'après, on avait une composition floristique beaucoup moins riche, en fait. Autant la première année, on avait vu des fleurs, hein, au sens aussi simple qu'on peut le... Imaginez hein, les cardamines des prés, du cornouiller, des orchidées, enfin, simplement de la couleur, comme n'importe qui peut s'en rendre compte, sans faire de relevés floristiques. L'année d'après, on avait les graminées. Donc, on s'est vite rendu compte qu'on avait là un appauvrissement du milieu. Ah, je me suis trompée. Donc l'intérêt écologique, ça je vous en parle rapidement. Bon, sur les zones d'arboretum de peuplement, je vous l'ai dit. Donc là, j'ai quelques illustrations avec du lotier et puis une orchidée. Un attrait touristique, ça je vous l'ai dit également, hein, les visiteurs qui voient les moutons, ils adorent. Ils cueillent les fleurs, ils vont donner à manger aux moutons. Enfin, c'est un agrément supplémentaire dans le site touristique. Et qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Ah oui, donc sur le site d'Harcourt, pour le moment, on n'a pas fait de relevé très précis au niveau floristique, puisqu'il y a eu un état des lieux de fait en 2009 par un étudiant en gestion et protection de la nature, qui va être refait, mais dans 5 ans, enfin 5 ans après, donc 2013. Par contre, sur le site archéologique de Gisacom, il n'y a pas eu, dès le départ en 2001, de relevé floristique de fait, mais il y en a eu un en 2008, au moment où on a fait le plan de gestion un peu plus poussé. Et dès ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà eu un impact positif au niveau environnemental, puisque sur des grandes terres qui avaient jusqu'alors été cultivées avec tous les intrants qu'on peut imaginer, on avait déjà, au bout de 8 ans, on voyait déjà au bout de 8 ans, 5 espèces d'intérêt patrimonial pour la Haute-Normandie. Donc c'est assez faible hein, sur le site, ça représente 3% du cortège floristique, on n'est pas sur un terrain de biodiversité extraordinaire, mais il n'empêche qu'on a ces 5 espèces-là qui sont présentes et qu'on fait en sorte qu'elles se développent. Donc rapidement pour finir, un mot sur la gestion du troupeau. Donc on a 2 sites qui sont distants d'à peu près 1 heure de route. Pour autant, on a un troupeau unique, donc des ovins de race Solugno, on a une 50aine d'animaux. Le choix du Solugno, c'est d'abord parce que le conservatoire des sites avait cette race-là, que c'était plus simple pour nous de choisir celle-là. C'est aussi parce que c'est une race en conservation, et puis qu'elle est rustique et donc bien adaptée aux conditions d'élevage qu'on lui offre, puisque il n'était pas question pour nous de construire une bergerie pour les mettre à l'abri l'hiver quand il fait froid, donc on avait quand même besoin d'animaux assez résistants. Le suivi de zootechnique et l'organisation du pâturage est externalisé. On n'a pas au département de techniciens, de bergers ou de zootechniciens. Donc avec deux modes d'externalisation. Pour le site archéologique de Gisacom, c'est une convention de partenariat avec le conservatoire des sites. Et puis pour Harcourt, c'est une prestation avec un auto-entrepreneur. En termes de coûts, je vous en ai déjà donné un petit peu tout à l'heure. Sur le site archéologique de Gisacom, on arrive à maintenant, pour la gestion du troupeau au sens strict, à 22 000 euros par an, un peu plus quand on a de l'agnelage, 1 700 en plus quand il y a une année d'agnelage. La convention en elle-même, elle monte jusqu'à 30 000 euros, mais c'est parce qu'on a rajouté des choses dedans, du suivi faune-flore, l'installation, l'expérimentation d'une culture amicicole, on a rajouté pas mal de choses. Mais pour tout ce qui est de la gestion par pâturage, on en est à 22 000 euros. Sur Harcourt, on est resté à 8 000 et quelques euros, alors que le pâturage s'est étendu, on fait les douves et on fait l'arboretum de peuplement et la prairie en plus en pâturage. Donc on est assez gagnant par rapport à l'intervention du chantier d'insertion il y a 4 ans. Une conduite d'élevage qui est adaptée aux objectifs de gestion des espaces verts. Il n'est pas question pour nous de faire de l'élevage, donc on ne fait pas une mise à la production tous les ans. L'agnelage, on le met en place, c'est juste pour avoir une répartition des classes d'âge cohérente dans le troupeau, pour ne pas se retrouver avec que des brebis vieillissantes à la fin au bout de quelques temps. Donc on fait un agnelage qui répond juste à ça. L'idée, c'est pas d'avoir des agneaux à vendre tous les ans. Les chargements, les choix de la race, tout ça a été le chargement sur les parcelles, tout ça a été géré, enfin décidé pour cette simple question de gestion des espaces verts. Une adaptation aux pratiques d'administration d'une collectivité territoriale, donc là j'en discutais tout à l'heure avec un des intervenants de ce matin, c'est peut-être ce qui a été le plus compliqué. Au niveau technique, pour un conseil général, on avait le bon partenaire, donc on avait le conservateur des sites qui savait faire, donc on partait pas dans le flou. Par contre, alors adapter nos pratiques administratives à le fait d'être propriétaire d'un troupeau, là c'était un peu plus coton, mais on a réussi. Alors c'était un peu plus coton, bon, déjà le président du conseil général s'est retrouvé l'heureux propriétaire d'un troupeau de moutons, donc ça c'est pas neutre pour un président du conseil général. Ça, il faut se rendre compte que voilà, le technicien, lui, il est au quotidien auprès de son troupeau, mais ce n'est pas lui propriétaire. Le propriétaire, il est quelques niveaux hiérarchiques plus haut, et dans une collectivité comme un département, le niveau hiérarchique, il est parfois assez éloigné du niveau de terrain, mais bon, on y arrive. Des exemples, simplement, quand il y a des naissances ou quand il y a des mises à la réforme, forcément, ça veut dire qu'on a une immobilisation corporelle en moins dans l'inventaire du département. Et il faut passer en commission permanente avec un vote par les élus. Enfin, c'est toute une adaptation. On ne peut pas décider comme ça du jour au lendemain, claque, ces brebis-là, l'état corporel, ça ne va pas, on les met à la réforme. Il faut faire tout un petit circuit administratif pour que ça passe en commission permanente et les élus votent le fait qu'on va les brebis à la réforme ou constatent le fait qu'on a tant d'agneaux, mâles et femelles en plus dans le troupeau. Donc ça va, parce que les commissions permanentes, il y en a une par mois, mais et puis les élus, ça les situe assez, hein, ça les sort quand même. Quand on est dans un département et puis qu'on doit gérer les problèmes sociaux de tout le département, finalement, un rapport sur la gestion du troupeau, c'est un petit moment de détente. Quelques incidents qui peuvent être anticipés. Donc en termes d'incidents, je peux vous en donner quelques-uns. Bah, parfois des chiens errants qui viennent mettre la pagaille dans le troupeau. Donc on a des animaux en balade dans la commune, du vieil Évreux, de la commune située à côté d'Évreux, du vieil Évreux par exemple. Des fois des animaux qui sont pas bien, enfin des annulages qui se passent pas bien avec un agneau mort dans un coin. Quand on est dans une zone périurbaine, ça le fait pas avec les habitants. Ou alors, tout d'un coup, il y a une vague de froid, il fait moins 13 pendant 15 jours, et là, les habitants, ils se rendent compte que, oh, mais non, mais ces pauvres moutons, là, ils vont mourir, et puis personne ne fait rien, c'est ces pauvres fonctionnaires du conseil général, ils y connaissent rien, ils vont nous les laisser mourir. Donc, tout ça, c'est des incidents réels, hein, et quand je dis que ça peut s'anticiper, ça s'anticipe avec de la communication, des réponses au téléphone quand on a le président de la SPA qui s'inquiète, et puis... aussi, ce qu'on a mis en place, c'est un listing d'appel. Donc, il y a un système d'astreinte le week-end, donc avec le conservatoire des sites sur le site de Gisacom et avec le prestataire sur le site d'Arco. Et c'est des personnes avec des numéros qui peuvent être appelés à tout moment en cas d'incident sur les troupeaux. Et ça, cette liste d'appel, elle est à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'elle est dans le bureau, dans mon bureau, elle est dans le bureau de mon supérieur hiérarchique, elle est dans chaque mairie des deux communes, et elle est aussi au poste de garde du conseil général. Je vous dis ça parce qu'il y a, avant qu'on fasse cette liste d'appel, il y avait eu un incident, et madame le maire de la commune ne savait pas qui appeler, et elle a appelé le président du conseil général lui-même. Il était très content d'être dérangé un week-end, parce qu'il y avait un mouton qui était un bélier, a priori, qui était en balade. Donc ça, c'est pour les petites anecdotes, mais on en rigole. Enfin, sur le coup, c'est pas très rigolo quand on arrive le lundi matin au travail, mais après coup, on s'en sort.
Administrativement, en termes, oui, je te parle, mais c'est plus l'antenne, les assurances et les conditions sanitaires, vous verrez ça comme...
Alors, les conditions sanitaires, on a un vétérinaire pour le troupeau. Donc, il fait tout le suivi vétérinaire de notre troupeau. Et puis, dès qu'il y a les questions de fièvre catarrhale, etc., c'est suivi avec notre prestataire zootechnique et le conservatoire des sites. Et l'assurance, c'est l'assurance du conseil général qui. Le conseil général a pris en compte que dans son patrimoine, il avait un troupeau de moutons. Et donc, l'assurance du conseil général couvre les questions relatives au troupeau. Mais on a aussi un arboretum, enfin, on a des trucs un peu bizarres, des fois, dans les collectivités. Et donc les assurances s'adaptent à ces particularités. Donc en conclusion, simplement vous dire que le département, donc on a pratiquement 10 ans de recul maintenant, vous avez vu qu'on n'a pas trouvé ça super d'un coup, on s'est réinterrogé plusieurs fois, on a adapté, on s'est adapté aussi aux conditions administratives qui sont les nôtres, et le bénéfice, il est écologique, économique, et aussi touristique, puisqu'en fait... le pâturage et la gestion écologique des sites historiques est devenu un thème complémentaire au thème de ces deux sites historiques. Donc en plus d'archéologie, de châteaux et de botanique, on parle de gestion écologique et on parle de pâturage aux visiteurs qui généralement apprécient ce discours.